Le mois de Ramadan est un mois qui réunit tous les types d'adoration.
L'ibadat.
C'est en quelque sorte des mises à jour qui reviennent de manière périodique pour vous mettre en phase avec Dieu.
Pour vous mettre aussi en phase avec vous-même.
Inch'Allah Rabbi, tqabbal minna. Allahumma laka somtu ala rizqika
afta. Que Dieu nous aide dans cette épreuve ô combien bienfaisante. Retrouvez-nous durant ce mois béni de Ramadan tous les jours de la semaine entre 6h et 7h du matin pour des séances de rediffusion. Quant au vendredi, nous serons ensemble à 6h et à 14h pour de nouvelles thématiques. Au cœur de l'islam, c'est tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, sur nos ondes, sur la mailbox et sur la page x.com au cœur de l'islam, chaîne 3. Ramadan Mubarak, somo bsahaw lehna.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
الكون كله ظلمة وإنما أناره وجود الحق فيه فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد اعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار من أشرقت بدايته بالرجوع إلى الله أشرقت نهايته بالوصول إلى الله من أشرقت بدايته بأحكام أصولها أشرقت بالعثور على محصولها Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à vous dans Au cœur de l'islam, en ce mois béni. Ramadan karim lil jami'a, tsoumou bsahaw lehna, w kul am wantoum bkhir. Salam alaykoum Kamel Shekat.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh.
Alors Kamel Shekat, durant ce mois béni de Ramadan, nous nous sommes fixés un objectif où nous avons pris l'engagement de revisiter un des manuels du tasawuf, le plus célèbre, le plus lu ou le plus traduit aussi. Certains d'ailleurs ont même dit que 3 manuels étaient très importants pour le cheminant sur la voie de Dieu. L'Ihya, Risala al-Qushayriya wa Hikam al-Judami.
Oui, absolument. Alors bon, cette introduction nécessite aussi un petit point d'histoire. Vous savez que à l'heure actuelle, nous sommes arrivés à un point tel que tous ces manuels sont dénigrés, fustigés, discrédités par cette tendance que nous appelons le wahhabisme, essentiellement. Cette manière de voir les choses, ou bien cet état dans lequel nous nous trouvons, à qui sert-il? Sinon aux détracteurs de l'islam. Ihya ulumdin, certains de nos savants ont dit, man lam yaqra il ihya falaysa min al ihya. Et il est plus que vrai que quiconque n'a pas lu l'ihya ne fait pas partie du monde des ahya, des
Pourquoi?
Vivants. Pourquoi? Parce que dans ce livre, dans ce monument, l'auteur a voulu faire en sorte que les gens reviennent à l'essentiel. Tout le monde peut parler de religion. Tout le monde peut accumuler une somme de connaissances incroyables dans ce domaine. Mais peu d'entre nous sont en mesure de faire valoir ce que nos grands maîtres appelaient « amalul qalb », le travail du cœur, dans ce que nous faisons. Quand Allah subhanahu wa ta'ala vous parle de la prière, il vous dit « qad aflaha al-mu'minun ladina hum fi salatihim khashi'un ». C'est ceux qui atteignent ce degré de dévotion, cette communion avec le tout, avec Dieu subhanahu wa ta'ala, cette fusion extatique avec tout l'univers qui fait que cette prière devienne une prière au sens propre du terme. Sinon, c'est de la gesticulation, c'est de la gymnastique.
Extatique, Kamel Shekat, vous utilisez tout d'un coup une terminologie ésotériste?
Sans même parler d'ésotérisme.
D'accord.
Mais c'est, je dis extatique parce que là, une implication, elle va occasionner des variations chimiques au niveau du cerveau et elle va être ressentie physiquement par ceux qui peuvent la vivre. Attention.
Ça se contraduit par
le... C'est quelque chose... Je ne sais pas si on peut traduire cela par ce mot, mais en tout cas, c'est une position, pour ceux qui ont pu vivre cela, elle est assez jouissive, carrément. Halawa, une douceur que peuvent ressentir les gens. C'est ça, c'est à peu près ça.
L'émir Abdelkader était un majdoub, justement, était un extatique. C'est quelqu'un qui a fait le voyage, on dit qu'il a fait le voyage jusqu'à Dieu et est revenu, donc pour enseigner la connaissance divine.
Là encore, ce que vous êtes en train de dire, moi je l'admets et je l'accepte. certains de ceux qui ont des cerveaux sclérosés, et je croyez-moi, je suis plus que complaisant et large avec ces gens-là quand je parle, hein. Parce que là, franchement, nous sommes dans un état d'esprit désertique qui fait qu'on ne peut plus rien prendre de ce qui est beau, bon et bien. Vous parlez de ce voyage. Certains de ceux qui regardent cela d'un mauvais œil pourraient vous dire, oui, regarde, ils sont en train de parler de voyage, et il y a beaucoup de soufis qui vous disent, oui, le soir, je vais jusqu'à la Mecque et je reviens. Nous ne sommes pas en train de parler de cela. Nous sommes en train de parler d'une expérience que peut vivre l'être humain. Cette expérience, elle est décrite autant par Ibn Taymiyyah que par Ibn al-Qayyim, son disciple, que par les plus grands noms, justement, de la théologie musulmane. C'est une expérience qui fait qu'à un moment donné, vous êtes tellement bien connecté à l'au-delà que votre âme retrouve quelque peu ou retrouve un peu de cette sphère ou de cette dimension dans laquelle elle se trouvait avant d'intégrer votre corps, cette enveloppe charnelle qui est votre corps.
Mais Kamal Chakat, on fait ce voyage tous les... Je parle de ceux qui font la prière au moins 5 fois par jour.
Oui, mais...
Salat ibadah mi'radiyah, n'est-ce
pas? Oui, mais bon, qui d'entre nous vit réellement cette transcendance?
Mais pourquoi pas, Kamal Chakat? C'est
non,
vrai qu'on
je
ne le vit
je
pas assez
pas,
souvent,
je,
mais...
Je ne suis pas en train de vous dire que la chose est impossible à réaliser. Elle est très très difficile. C'est pour cela que la miséricorde de Dieu lui a fait dire dans son livre saint « فَوَيْنُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ » et pas « فِي صَلَاتِهِمْ سَهُونَ ». Malheur à ceux qui délaissent quelque peu leur prière. Parce que si il aurait dit « فِي صَلَاتِهِمْ سَهُونَ », ceci voudrait dire que nul d'entre nous ne pourrait vraiment récolter ne serait-ce qu'une seule bonne action. Et puis quand je disais tout à l'heure qu'on pourrait avoir beaucoup de connaissances sans pour autant atteindre cette sagesse divine, ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est une anecdote. Il y a pas longtemps, à peine quelques années, des gens sont allés enterrer un homme dont le père était connu pour être un homme vertueux, un homme d'une honorabilité parfaite, un homme qui... Lorsqu'il intervenait entre deux parties en litige, il arrivait toujours à les réconcilier. Il paraît à chaque fois qu'une femme voulait divorcer ou qu'un homme voulait divorcer, eh ben, on les emmenait chez ce monsieur, qui n'était pas un savant, qui était un homme vertueux, tout simplement, mm-hmm. connu pour sa bonté, son observance très assidue au culte. Et à chaque fois, il réussissait à réconcilier les gens. Quelques années après sa mort, quand on est allé enterrer son fils, vous savez que la coutume chez nous veut que l'on ouvre la tombe d'un ancien pour y enterrer soit son enfant ou son petit-enfant ou sa compagne. C'est une manière de rentabiliser, on va dire, l'espace. Quand la tombe a été réouverte, à un moment donné, on enlève les dalles qu'on met généralement sur le corps, et là, on entend des glorifications à rompre les cordes vocales. Les jambes, nasbdawi kabro. Et le linceul était intact et la personne était toujours là. Et nous savons, de par la tradition, que les corps des hommes vertueux, des gens vertueux, hommes ou femmes, ne sont pas facilement, ne se décomposent pratiquement pas. Ou bien ils prennent énormément de temps. Le corps, après plusieurs années d'enterrement, était tout à fait intact. Donc ça me fait dire que dans tout le monde musulman, j'ai eu l'occasion de remarquer cela avec Cheikh Mohamed Al-Ghazali, avec bon nombre de nos savants, qui, quand vous discutez avec eux, chacun vous parle d'un certain nombre de personnes qu'il considère comme meilleures que lui. J'ai vu ça chez Cheikh Ahmed Sahnoun, je vois ça chez Cheikh Tahrayt Al-Jett, j'ai vu ça chez feu Cheikh Mohamed Sharif Gahar, rahmatullahi alayh, et ainsi de suite. Vous êtes avec un savant, et à un moment donné, il y a une personne qui arrive, et le Cheikh en personne se plie en quatre pour cette personne. Et puis, après coup, quand vous lui posez des questions, il vous dit « هذا الرجل رجل صالح » ou bien « هذه امرأة صالحة ». On peut avoir énormément de connaissances, mais tant que l'on n'est pas dans cette logique des anciens qui disaient « innama al-ilm al-amal », en fait la science, c'est la mise en application d'un certain nombre de connaissances ou de toutes ces connaissances que vous avez amassées, ben personne d'entre nous n'est arrivé à ce qui est souhaité en religion. Et c'est pour cela que, à l'heure actuelle, ce qui fait défaut chez les musulmans, c'est justement le fait que l'on ait délaissé tout cet aspect spirituel qui est inhérent au cœur, et nous n'avons privilégié que des aspects que nous pourrions considérer, bien qu'ils soient importants, mais qui font office de peau ou de pelure en quelque sorte. Chour. Alors quand vous parlez de l'Ihya était une référence à un moment donné. Le Risal al-Qushayriya a été enseigné dans l'enceinte même de la Mecque pendant 40 ans. Quand Risal al-Qushayriya était une référence, les musulmans étaient dans la bonne trajectoire. Et puis, quand les Britanniques ont commencé à produire cet islam qui fait leur affaire, et celle du sionisme international, eh ben, Risal al-Qushayriya est devenu un livre qui a été mis à l'index. Et il en est de même aussi pour l'Hikam al-Ata'iyya ou bien d'autres livres du soufisme ou de ce que nous appelons le soufisme qui ont distingué l'islam et les musulmans des autres religions.
Alors en parlant de connaissances, Kamal Shekat Ibn Ata'illah Sakandari nous dit dans sa dixième sagesse, Al-A'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri al-ikhlas fiha. Et certains connaissants disent que iyyaka na'budu huwa al-ikhlas wa iyyaka nasta'in sirru al-ikhlas. Justement, dans ces hikam, Ibn Ata'illah al-Sakandari s'est beaucoup inspiré de l'ouverture du Coran, Sourate al-Fatiha. Oui. Alors, Kamal Shekat, avant de commencer à décortiquer, à passer en revue ces perles de sagesse spirituelles qu'on dit être des perles d'un collier spirituel que chacun de nous doit lire au moins une fois dans sa vie, qui est Ibn Ata'illah al-Sakandari? Quelle époque est-ce qu'il a vécu? Quels ont été ses écrits, ses références, ses référents? Qu'a-t-il apporté à l'islam, Ibn Ata'illah al-Sakandari?
Il s'agit de Tajuddin et Abul Fadli Ahmad ibn Muhammad ibn Abdil Karim ibn Ata'illah al-Sakandari, donc d'Alexandrie, comme son nom l'indique. Il était de la tariqa Shadouliya. Mm-hmm. Beaucoup disent Shadiliya, mais bon, il est plus juste de dire Shadouliya. On le connaît sous le nom d'Ibn Ata'illah al-Sakandari. Certains disent qu'on l'appelait Ibn Ata'illah, ce qui se traduit littéralement par « fils des dons d'Allah », tellement il était érudit. Mais bon, quand on lit sa biographie, il semble que c'est un nom qui lui a été donné par son père, par ses parents. Mais je pense que même ce prénom, Ibn Ata'illah,
son prénom était Ahmed.
Ahmed, cette kunya. Yukanna bibn Ata'illah. Je crois qu'elle lui a été donnée tayyimunan ou bien tabarrukan, c'est-à-dire qu'en l'appelant ainsi, on aspirait à ce qu'il devienne quelqu'un d'érudit. Et c'était un théologien ash'arite. Vous savez, alors au tout début de l'islam, il n'y avait pas d'école dans le domaine dogmatique. Le madaris al-aqadiyya, ça n'existait pas. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien les tabi'in ne dissertaient pas beaucoup dans les détails du dogme musulman. On va dire qu'ils restaient sur une sorte de norme et leur seul souci était de mettre en application tous ces principes des doctrines de l'islam. Avec l'avènement des Mu'tazila qui s'étaient beaucoup inspirés des autres civilisations, essentiellement hindous et persanes, beaucoup de points d'ordre théologique se sont greffés à ce qu'on a commencé à appeler l'aqida. Parce qu'au début, on ne parlait pas de fiqh, on ne parlait pas de aqida, on ne parlait pas de tasawuf. Il y avait les trois positions, les trois sphères qui étaient celles de l'islam, de la foi et de l'ihsan. Mm-hmm. Et avec le temps, les choses se sont tellement développées que dans le domaine de l'islam, on a commencé à parler de fiqh al-ibadat, donc le droit cultuel, fiqh al-mu'amalat, le droit juridique, et l'hudud, qui est le droit pénal. Dans le domaine de la foi, on a commencé à parler de aqida, c'est-à-dire de dogmes, de choses qui devaient s'ancrer fermement dans le cœur du musulman. Et dans le domaine du comportement, de la spiritualité, les choses se sont développées au point de commencer à parler de mysticisme, voire d'ésotérisme, c'est-à-dire à chaque fois selon les degrés que ces gens qui se sont spécialisés dans ce domaine ont atteint.
Selon le Hejwiri, ce mot soufisme est apparu vers le deuxième siècle, mais c'est une science qu'on connaissait déjà du temps du prophète
bien
sallallahu alayhi wa sallam.
Bien avant. Le mot soufia ou bien tasawuf était connu déjà Sufyan à l'époque Thawri. De Hassan al-Basri. Et si vous lisez Awarif al-Ma'arif de Sohrawardi, alors qu'il donne 60 définitions du mot tasawuf, il dit que les deux définitions les plus probables seraient celles qui concerneraient Ahl al-Suffa, qui est un point, une force équerre, un petit triangle qui était attenant à la mosquée du prophète, alayhi salatu salam, où se réunissaient les pauvres exilés venus de la Mecque, ceux qui étaient vraiment démunis, et qui était en majeure partie pris en charge par le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. D'autres disent que ce mot viendrait de l'habit de prédilection des anachorètes, zuhad, qui était la laine écrue, sauf. Mais bon, je pense que Ahl al-Sufa, c'est... Je l'espère pour eux, de toute manière. Mais il y a énormément de définitions. Et le plus important est d'utiliser cette branche à bon escient, et non comme l'ont fait certains avec beaucoup, beaucoup de déviations. Donc il était de l'école Ash'arite. Là, je voudrais marquer une petite pause, parce que dès que vous dites à l'heure actuelle, c'était un Ash'arite, vous avez des petits jeunes qui ont été orientés vers la vie active au primaire, et qui sont devenus du jour au lendemain des petits demi-savants. Qui vous dirait « Ah, c'est Ash'ari ». Donc non, Ash'ari, Foussar, Kuffar, je ne sais quoi, Mubtadi'a, c'est une tendance qui a commencé il y a peut-être une soixantaine d'années. Mm-hmm. Bon, il y a quelques-uns comme le Qahtani qui ont fustigé l'Ash'ari. Sachez que quand les Mu'tazili ou les Mu'tazila ont commencé leur campagne dans l'affaire de Khalq al-Qur'an dont on a parlé, qu'on a déjà évoqué, quand ils ont organisé leur inquisition, les seuls ensuite qui se sont véritablement opposés à eux, c'était Abul Hassan al-Ash'ari et ceux qui étaient de son côté. Abul Hassan al-Ash'ari, rahmatullahi alayhi, était l'élève d'Al-Jubba'i, qui était l'un des maîtres des Mu'tazila. Il l'a confondu devant tout le monde à plusieurs reprises, et c'est lui qui a carrément anéanti cette doctrine des Mu'tazila, à telle enseigne que tous ceux qui se réclamaient de l'ash'arisme étaient appelés à un moment donné Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que, on va dire, 95% des grands savants de cette nation étaient des ash'arites, ash'a'ira. Vous prenez l'exemple de l'imam Nawawi, vous prenez l'exemple d'Ibn Hajar al-Asqalani, des grands rapporteurs de la tradition prophétique comme le Bukhari, Muslim, etc. Bien sûr, on les appelle, on dit d'eux que ce sont des gens qui étaient ala aqidati salaf. Mais en fait, tout le monde l'est. Quand vous prenez quelqu'un comme Abul Hassan al-Ash'ari, une autre personne comme Ibn Taymiyyah, dans toute dissertation d'ordre dogmatique, vous allez vous rendre compte que les deux personnes démarrent d'un même point. Ils vont prendre des cheminements différents et vont arriver à la même conclusion. Alors, où est le problème avec l'Ash'aira? Le problème, normalement, ne devrait pas se poser. Si vous lisez tout ce qui a été écrit par Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, si vous lisez le Kafiya Shafiya, qui est un recueil versifié, un poème, qui s'intéresse au dogme, qui a été composé par Ibn al-Qayyim et qui dépasse les 5000 vers, quand il cite des grandes figures de l'ash'arisme, comme le Baqillani et j'en passe, mais il les cite d'une manière admirable. Alors que s'est-il passé chez les musulmans pour que l'on arrive à un point où pratiquement tous ces gens-là sont mis à l'index? Donc, il était de l'école Ash'arite. Face aux Ash'arites, il y avait les Maturidiyah, qui étaient des adeptes de l'Maturidi. Et tous ces gens-là ont contribué à l'enrichissement et à la richesse de la théologie musulmane. Quand je parle de théologie ici, je traduis ce terme par « ilm al-kalam », c'est-à-dire des dissertations d'ordre religieux, mais qui concernent beaucoup plus le dogme. Et ces gens-là, avec tous les autres spécialistes des autres branches, comme par exemple Ibn Sina, qui était médecin, mais qui s'est intéressé à Ilm al-Kalam, ou bien al-Farabi et bien d'autres, ont contribué, sachez-le, à l'enrichissement de la théologie chrétienne. Parce qu'à leur, au contact de leurs écrits, surtout quand l'avéroïsme était la lumière de l'Occident, pendant au moins 3 siècles, l'avéroïsme était vraiment la doctrine par excellence des gens heureux, c'est-à-dire des gens qui cultivaient leur esprit en Occident, eh bien la théologie chrétienne a fortement changé en s'inspirant des écrits de ces musulmans. Et là, vous allez trouver
des gens
qui sont en train de fustiger toute la nation en la traitant d'innovatrice, mubtadi'a, je ne sais quoi, alors qu'eux-mêmes sont des carpettes,
c'est pour ça qu'on a commencé à déclassifier nos savants musulmans. Averroès a été classé récemment comme un savant européen.
Il ne l'a jamais été. Vous savez, quand il faut savoir, malheureusement, les gens n'étudient pas l'histoire. Mais quand les Européens parlaient de cette partie qu'on appelle actuellement l'Orient, Orient, on parlait d'Orient parce que c'était l'orientation à suivre. C'était là que résidait la vérité, la sagesse, la philosophie, pas en Occident. Quand les musulmans étaient à deux doigts de marcher sur la lune, il aurait peut-être, qui sait, avec tous les livres qui ont été brûlés, ces Européens qui se targuent maintenant d'être des gens civilisés, je ne sais quoi, s'habillaient en peau de bête et avaient des pierres en guise d'oreiller. Donc, honnêtement, le petit musulman que je suis n'a absolument rien à prendre et rien à apprendre de l'Occident.
Kamal Chekat, ce que vous venez de dire sur le monde musulman aujourd'hui, on pourrait le synthétiser dans une des sagesses d'Ibn Ata'il al-Sakandari qui dit « Ma taraka min al-jahli shay'an man arada an yuhdita fil waqti ghayra ma adharahu Allahu fi » Kamal Chekat, pourquoi il est dit que les trois manuels de soufisme les plus importants sont l'Ihya wa al-Risala wa Hikam al-Judami?
En tout cas, c'est un livre qui, s'il devenait le livre de chevet des musulmans, je suis sûr que l'on arriverait à un comportement tel qu'il répondrait de l'islam ou qu'il défendrait l'islam face à toutes les agressions qu'il connaît actuellement. C'est-à-dire que si vraiment on se conformait à ces perles de sagesse qui synthétisent beaucoup, beaucoup de notions religieuses chacune, on n'aurait pas besoin des torchons comme Charlie Hebdo venaient à rééditer les caricatures, on n'aurait pas besoin de se défendre. Les gens diraient non, ce que vous êtes en train de dire là est faux parce que ces musulmans, nous les voyons, nous voyons leur comportement. Malheureusement, à l'heure actuelle, ça n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pris de cette religion que son aspect visible, c'est-à-dire une mise en pratique au premier degré.
Très bien. Alors, Kamal Chekat, pour baliser un petit peu le terrain, on dit qu'avant la Chadilia, on entendait plutôt parler que d'Abd al-Qadr al-Jilani, Rifa'i, Ibn Arabi, Al-Ghazali. Dans l'Occident musulman, on parlait de Abu Madian al-Rawt, Abu Madian Shu'aib, al-Bija'i, al-Andalusi, Dafinu Tilimsan, bien sûr, au niveau de l'Abbad. Par la suite, Chadouli est venu, Abu Hassan Chadouli. Son maître était Ibn Mashish, qui était lui-même l'élève de Abu Yaza, le berbère, le soufi berbère. Par la suite, donc avec la naissance de la Chadilia, c'est sûr qu'Abu Hassan Chadouli a fait la traversée du Maghreb jusqu'à arriver en Égypte où il s'est installé. Son successeur a été Abu Abbas al-Mursi, puis est venu Ibn Ata'il al-Sakandari. Ibn Ata'il al-Sakandari a constitué un petit peu toute la connaissance et le patrimoine de la Chadilia. Il s'est installé à Alexandrie et c'est là où il a commencé à rédiger un certain nombre d'ouvrages où il a surtout insisté sur le dhikr.
Le hikam, c'est quelque chose de fabuleux parce que vraiment ça a synthétisé une partie de la
religion. Du tawhid, de l'unicité,
oui,
surtout.
Absolument, et qui vous renvoie véritablement à l'essentiel.
Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cet ouvrage, Kamal Chekat? On dit qu'il y a 3 chapitres très importants. Mihwar al-wujud al-haq, wal-ma'rifa, wal-nafs al-insaniya et mihwar al-tazkiya.
ce qui est le plus intéressant, surtout quand les hikam, je pense que ce qui leur a donné à notre époque cette dimension qui est véritablement la leur, c'est le fait qu'elles aient été aussi interprétées par Shahid. Parce qu'il leur a donné une dimension philosophique qui est aussi rationnelle, parce qu'il quand il disserte là-dessus, il remet tout cela au goût du jour et il explique de par son interprétation que nous ne sommes pas dans l'utopie. Nous sommes dans quelque chose qui est simple, qui est réalisable et qui surtout renvoie à une vérité que beaucoup de gens malheureusement ne voient pas.
Alors, ce petit Kouras, hein, comme disait Abou l'Abbas al-Mursi, quand Ibn Ata'illah al-Sakandari lui a lu les Hikam, il lui a dit « Ibni laqad i'ta bi'ajabin, Kourasatun tadammanat maqasid al-Ihya wa zadat alayh ». Ce petit carnet a été traduit et expliqué par bon nombre de grands savants.
Pour que l'idée ne parte pas. « Hawat maqasid al-Ihya'i ». Ça veut dire que lui-même, à son époque, a synthétisé les visées du livre d'Al-Ihya.
Combien de mujallad,
Khams mujalladat. Et l'Ihya, pourquoi est-ce qu'il a été écrit, rédigé par Abu Hamid al-Ghazali? Essentiellement parce que Jérusalem est tombée sous la domination des croisés. Il voulait récupérer Jérusalem. Et quand il voyait que les gens n'accordaient pas cette importance à cette partie du monde, au troisième lieu saint de l'islam, l'importance qu'il méritait, il a écrit l'Ihya pour que le culte ne devienne pas une gymnastique qui s'opère au quotidien, mais pour que ça devienne véritablement une philosophie, le choix d'un modèle dans la vie d'ici-bas. Ibn Ata'illah n'a fait que synthétiser tout cela, en fait. Et quand on étudie ce que nous appelons en langue arabe « tasawuf al-mahmoud », c'est-à-dire le bon soufisme, on se rend compte qu'en dépit de l'éloignement sur le plan géographique des icônes qui forment ce monde, tous ceux qui étaient sur la bonne trajectoire, c'est-à-dire celle des pieux prédécesseurs, salaf salih, quelle qu'eût été leur école de droit, leur école d'origine, « madhhab al-asli », Hanbali, Hanafi, Maliki ou bien Shafi'i et même d'autres, il y a une convergence vers une vérité qui est absolue, qui est unique. C'est celle des gens qui ont atteint ce que nous pourrions qualifier de vérité.
Alors que M. Kat, on parlait des commentateurs des Hikam les plus importants, on peut trouver Ibn Abad Randi, qui a vécu entre 733 et 792 dans son ouvrage « Raïftul Mawahib al-Aliya ». On a Cheikh Zerrouk, très connu dans le milieu soufi,
oui.
Dans son ouvrage « Al-Futuhat al-Rahmaniya ». On a aussi son deuxième ouvrage « Miftah al-Fada'il ». On a Imam al-Azhar Abdullah Sharqawi dans « Sharh al-Hikam ». On a Ibn Ajiba dans « Iqaz al-Himam fi Sharh al-Hikam ». On a Abdelmajid Charnoubi, on a Cheikh Saïd Ramadan al-Bouti dans ses 5 volumes, on a Abdelhalim Mahmoud, on a aussi notre grand ami Eric Younes Geoffroy dans les sagesses oui. des maîtres soufis, un ouvrage sorti en 1999. Tout le monde, pratiquement, surtout dans le milieu soufi, beaucoup de gens se sont intéressés au hikam, d'où son importance dans la voie, dans le cheminement.
En parlant de Cheikh Ahmed Zerrouk, qui est un grand juriste musulman malékite de Tlemcen, et qui a largement influencé l'Orient par ses écrits, nous sommes en train de parler d'Ibn Ata'illah al-Sakandari. Ahmed Zerrouk disait de lui « Kana jami'an li anwa'i al-ulumi min tafsirin wa hadithin wa fiqhin wa nahwin wa usulin wa ghayri dhalika kana mutakalliman ala tariqi ahli tasawuf ». Donc c'était un juriste, un exégète, un spécialiste en hadith et un spécialiste en fondement du droit musulman. Ibn Hajar al-Asqalani, dans « Durar al-Kamina fi a'lami sanati al-Hijriyati thamina », je pense, C'est un recueil de biographies. Il dit Sahib al-Sheikh Aba al-Abbas al-Mursi, Sahib al-Shadili, ou bien Shaduli, وصنف مناقبه ومناقب شيخه وكان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه. بن الأهدل disait شيخ العارف بالله شيخ الطريقين وإمام الفريقين كان فقيها عالما ينكر على الصوفية ثم جذبته العناية فصاحب شيخ الشيوخ المرسي. Donc il était contre le soufisme à un moment donné. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de déviations dans cette sphère. Mm-hmm. Et puis il est revenu justement vers le soufisme et il a quelque peu rectifié le tir. Donc là, ceux qui parlent de lui sont des gens qui l'imam Dahabi disait كانت له جلالة عظيمة ووقع في النفوس. Vous savez, c'était une icône qui avait beaucoup de charisme, qui avait beaucoup d'ascendant et d'impact sur les gens.
Qui ne s'habillait pas en muraqaa, Kamal Shakat.
Non, à l'image d'Abul Hassan Shadouli, qui s'habillait comme un prince. Les soufis donc du Maghreb ou de l'Occident musulman ont largement contribué à cela parce qu'ils étaient, ils vivaient parmi les gens. C'était pas des ce qu'on appelle le bahalil. De nos jours, quand on parle d'une personne niaise, on dit hada bahloul. En fait, le mot bahloul, vous savez, il vous faut beaucoup pour arriver à ce degré de bouhloul. Le bahalil,
comme
c'était
le
des gens. Bichr al-Hafi, il y avait
le prince de Bagdad.
Oui, le prince de Bagdad, oui. Même les califes n'osaient pas se mettre à côté de lui. Bichr al-Hafi, que l'imam Ahmed ibn Hanbal suivait pieds nus par moments. Et ses élèves le lui reprochaient. Comment quelqu'un comme toi pourrait-il suivre un hurlu-berlu de ce type ?
Qu'est-ce que disait Ibrahim ibn Adhab, Kamal Shakat ?
Je voudrais citer d'abord l'imam Ahmed qui disait « In kuntu ana arifan » بِالشَّرِيعَةِ فَهَذَا عَارِفٌ بِاللَّهِ. Moi, je connais la loi de l'islam. Cet homme connaît Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, Ibrahim ibn Adham, rappelez-moi.
لو علم الناس ما نحن فيه لجلدونا بالسيوف.
لو نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجلدتنا عليه وأبناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. C'est-à-dire, nous vivons dans une joie, dans un bonheur qui, s'il venait à être découvert par les rois et leurs fils, ils nous combattraient à coup sûr, à coup d'épée, juste pour nous le subtiliser en quelque sorte.
Ibrahim ibn Adham, qui était un prince hein, et qui a tout laissé, le faste, le château, les servants et tout ce qui s'ensuit pour vivre
en anachorète en quelque sorte.
Exactement. C'est quoi cette joie dont parlait Ibrahim ibn Adham, Kamal Shakat?
C'est celle qui est indiquée par ce fameux verset qui dit ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est un sentiment, c'est par l'évocation de Dieu que s'apaise les cœurs. Et ceci.
Mais tous les musulmans évoquent Dieu, Kamal Shakat.
Oui, mais peu d'entre nous arrivent à cela. C'est un sentiment de plénitude qui vous fait goûter les douceurs de la foi. D'ailleurs, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, parlait de halawat l'iman et de certaines certaines situations qui pourraient vous faire accéder à cela.
Les trois situations.
Et j'ai oublié le reste.
L'une d'elles, c'est la lecture du Coran. Et nous sommes dans le mois du Coran, justement.
Oui, absolument. Et il y a l'évocation de Dieu. Et puis, le problème, c'est que, enfin, si tant est que l'on puisse parler de problème ici, le problème est que, à l'heure actuelle, les neurosciences ont démontré que cette joie, ce bonheur, cette plénitude, elle se vit réellement. Elle se manifeste par la surproduction de sérotonine quand on a atteint cette dimension qu'on appelle le khushu', même en lisant le Coran. Et chacun d'entre nous, je pense, a pu vivre cela ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Il nous est tous arrivé de lire beaucoup, beaucoup de Coran et de ressentir une sorte de satisfaction intérieure au fur et à mesure de la lecture. Il nous est tous arrivé de nous lever une fois comme ça, au creux de la nuit, de nous adonner à la prière et de trouver et de trouver en cela un bonheur intense, incroyable, inexplicable, chose que beaucoup d'entre nous n'ont pas pu réitérer. Pourquoi ? Parce que nous n'étions pas dans les dispositions dans lesquelles nous nous trouvions quand nous avons vécu cela. Et c'est pour cela qu'il est demandé ou attendu du croyant, du musulman, d'essayer autant que faire se peut, de se connecter à l'au-delà, d'aller vers cette transcendance, de se déconnecter du monde d'ici-bas pour pouvoir vivre cela.
Ibn Athaillah Al-Sakandari, dans sa 36e sagesse, nous dit: Shu'a'u al-basira yushhiduka qurbahu mink wa 'aynu al-basira tushhiduka 'adamaka li wujudihi wa haqqu al-basira yushhiduka wujudahu la 'adamika wa la wujudaka.
Alors vous avez donc trois paliers de la basira ici. Le premier donc, allez-y.
Shu'a'u al-basira yushhiduka qurbahu mink.
Donc le fait qu'il y ait un semblant déjà de cette basira, c'est le fait d'être sur le droit chemin, d'être sur le chemin de la vérité. Basira, c'est une sorte d'intuition, oui, dont le centre d'exécution est le cœur, parce que nous partons du principe que le cœur est un centre de décision au même titre que le cerveau. Et même sur le plan scientifique, ça a été déterminé. Vous savez par quoi ? Mm-hmm. Par les transplantations de cœur qui ont été faites à travers l'histoire contemporaine. Et il y a même, je crois, un médecin qui a recensé tous ceux qui ont subi une transplantation du cœur et rapporté tout ce qu'ils ont vécu, tous les nouveaux penchants auxquels ils se sont trouvés confrontés, parce que le cœur garde en mémoire un certain nombre de choses qui, avec sa transplantation, se sont greffées dans le corps de celui qui a subi la transplantation. Ce qui donne du crédit à ce que dit le Coran quand il dit « Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fi soudur ». Donc le cœur, lui aussi, a un œil, comme vous venez de le dire, a un moyen de voir les choses, de les interpréter, de les apprécier, tel que cela est énoncé dans bon nombre de textes fondateurs.
Basira Kamal Shakat est cité dans le verset de la sourate Yusuf, lorsque Yusuf alayhi salam dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Alors شُعَاعُ الْبَصِيرَ يُشْهِدُكَ قُرْبَهُ مِنْكَ وَعَيْنُ الْبَصِيرَ.
Donc شُعَاعُ الْبَصِيرَ, c'est-à-dire que le faisceau en quelque sorte de cette basira témoigne que Dieu est proche de vous. Mm-hmm. Parce que vous avez fait justement ce
le
pas.
Le cœur qui est le trône de Dieu.
Oui, et comme Dieu fait toujours mieux et plus que son serviteur, il est plus juste de dire
wa'aynul basira
qurbahu mink plutôt que de dire qurbuka min. D'accord,
wa'aynul basira, parce que voilà, parce que huwa alladhi yatajalla, c'est ça,
wa idha atani 'abdi mashiyan ou bien musri'atan ataytuhu muharwilan ou bien harwalatan, c'est-à-dire que si vous allez
man 'ada li wali, c'est ça le hadith.
Oui, dans ce fameux hadith,
les saints de Dieu.
Quand vous allez vers Dieu en marchant, lui vient vers vous à pas presser. C'est hada min fadlillah. Dieu fait toujours plus et mieux que ce que nous pourrions faire. Et nous donne ou nous rend au centuple ce que nous pourrions lui donner, entre guillemets, quand nous lui donnons. C'est pour cela que même la sira, on va dire siyarat al-hikma, la manière dont est présentée cette sagesse, va dans ce sens. Donc, Aïnul Basira, c'est donc là, nous sommes plein pied, au cœur même de cette Basira, pas dans son faisceau. Quand on a atteint normalement cette phase, on va en quelque sorte, on va, peut-être ça nous renvoie peut-être à cette idée de fana, dont parlent beaucoup de grands maîtres soufis, c'est-à-dire que par humilité ou bien par prise en considération ou par prise de conscience de la vérité, vous allez vous annihiler vous-même. Vous allez vous rendre compte que vous êtes moins qu'Ypsilon, que vous ne valez absolument rien face à ce que nous appelons le Hadar al-Ilahiyya, cette prestance divine.
Donc rien ne peut être Lorsque Dieu est là, voilà qui n'endure le Jabali, fa in istaqara makanahu fa sawfa tarani fa lamma tajalla rabbuhu lil Jabali ja'alahu dakkan wa khara Musa sa'iqa. C'est ça.
C'est oui, quand il a demandé à Dieu de se manifester devant lui, qala arini andur ilayk, tu ne me verras pas, mais regarde plutôt ce mont, et s'il tient à sa place, eh bien tu me verras. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté au mont, il s'est transformé en poussière.
Il s'est pulvérisé.
Et là, Moïse d'ailleurs, il s'est repenti de cette demande. Mais là, le Coran nous enseigne que notre liberté de penser n'a pas de limite, que notre droit à la curiosité n'a pas de limite, tant qu'il se fait dans le respect justement de Dieu, de ses préceptes.
Et la récompense, Kamal Shekat ? Le verset qui suivit, قال يا موسى إن استفيتك على الناس
رسالتي وكلامي. Oui, parmi les gens, mm-hmm. avec mon message et mes paroles.
Pour dire bien que sûr, la quête de Dieu ne peut que nous donner une belle rétribution.
Normalement, quand elle est faite dans
sincère,
ce respect.
L'ikhlas.
Sidna Moussa alayhi salam, comme le dit, je pense Édouard Churé dans les grands mm-hmm. initiés, c'était un érudit. C'était quelqu'un qui a fait l'école égyptienne. Il était dans la cour de Pharaon et il a eu au meilleur enseignement de son époque, ne l'oublions pas. Et il aborde ici des points d'ordre religieux qui n'étaient pas les siens au premier degré. Il les aborde avec un respect incroyable, avec une clairvoyance même. Et si je me permets de parler de cela, c'est pour revenir sur ce que nous connaissons dans l'actualité algérienne actuellement. Alors, des gens qui se permettent sur les réseaux sociaux d'être impolis vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la religion, qui ne font que des attaques. Et certains ignares placent cela sous le signe de la liberté de penser. Ça n'a rien à voir avec la liberté de penser. Les gens ont le droit de poser des questions, comme nous le montre cette anecdote de Sidna Moussa alayhi salam. Les gens ont le droit de se poser des questions même sur Dieu, et ça nous arrive à tous. Quand nous sommes en train de réfléchir, nous nous disons très très souvent, je procède de mes parents procèdent des leurs, et ainsi de suite. Et puis nous arrivons à Dieu et nous nous posons la question. Comme l'a si bien dit le messager de Dieu, Blis vient et vous dit, et d'où vient Dieu ? Et là, vous n'avez pas de réponse. Alors, c'est quoi la libre pensée ? C'est de se poser des questions sur Dieu en parlant de lui comme si on parlait d'une personne quelconque, mm-hmm. ou en posant la question vraiment d'un point de vue, en partant de ou sur des bases vraiment philosophiques. Dieu existe-t-il réellement ? Et je commence à faire ma recherche, je commence à essayer de donner une réponse, qu'elle soit positive ou négative, mais en tout cas...
Est-ce qu'on doit le trouver et le voir, Kamal Shekat ?
Vous savez, dans sa création, dans ce qu'il a créé ou à travers ce qu'il a créé. Donc c'est quand on parle justement de ce droit à la curiosité, de ce droit à faire valoir sa raison, de ce droit à se poser des questions, il existe en religion. Mais il ne se fait pas dans l'impolitesse, dans l'impédance de ces gens qui parlent sur les réseaux sociaux. Comme cet ignare qui a dit, oui, à l'époque des premiers musulmans, Mohammed, comme si elle parlait d'un vendeur de poissons. Oui, ce Mohammed a promis à ses compagnons les belles femmes de Bani al-Asfar, c'est-à-dire des Romains, les Européennes, s'ils allaient à la conquête du monde. Et c'est comme ça que l'islam s'est propagé et développé. J'ai fait une fois un commentaire là-dessus disant heureusement qu'il a utilisé comme appât les femmes de Bani al-Asfar, parce que si toutes les femmes te ressemblaient à toi, je suis désolé, l'islam n'aurait pas bougé d'un iota. Et véritablement. Donc il y a actuellement dans notre société des gens qui disent n'importe quoi, qui n'ont aucune expertise, aucune connaissance avérée. Et vous avez des gens qui sont encore plus ignares qu'eux, qui les placent au rang de libres penseurs. Je suis désolé, vous ne l'êtes pas du tout. Un libre penseur, c'est quelqu'un qui, même quand il produit une idée qui est contraire aux vôtres, quand vous mettez à sa place, quand vous lisez son écrit, quand vous analysez sa démarche, ça ne peut que vous inspirer du respect. Maintenant, je ne sais pas, mais quand je lis quelqu'un comme Karl Marx, c'est une personnalité qui s'oppose fondamentalement à ce que j'ai en moi, comme idée, comme sensation, comme perception, comme... Mais il n'en demeure pas moins que quand je lis Karl Marx, je me rends compte que c'est quelqu'un qui jouit d'une expertise certaine, même s'il est, selon moi, ce que moi je pense, dans le faux. Mais il y a des gens qui ne méritent même pas d'être lus.
Merci à vous Kamal Chakat, merci à tous ceux qui ont été des nôtres dans ce premier numéro dédié au Hikam de Ibn Ata'illah Sakandari.
Une introduction.
Et je rappelle aussi Kamal Chakat que nous sommes ensemble tous les jours de la semaine pour des émissions choisies, sélectionnées, des perles de Au cœur de l'Islam. Merci à vous tous, je vous dis à demain Inch'Allah donc, Sahar Ramadan Koum, et je terminerai avec cette supplique de Ibn Ata'illah Sakandari. إلهي اغنني باختيارك عن اختياري وبتدبيرك عن تدبيري وأوقفني على مراكز اضطراري إلهي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. Merci beaucoup à vous tous. Au revoir.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
Understand.